14 juillet 1789. Pour expliquer cette journée très importante de l'histoire de France, qui est considérée comme le début de la Révolution française, il vaut mieux prendre la suite des événements heure par heure. Vers 9 h du matin, à Paris, environ 50 000 Parisiens se dirigent vers le plus vaste dépôt d'armes de Paris, les Invalides. Là sont entreposés entre 20 000 et 30 000 fusils et 24 canons. Une délégation demande à parler au gouverneur des Invalides pour lui réclamer des armes. Celui-ci explique que c'est impossible et qu'il lui faut un ordre écrit de Versailles. Mais les Invalides qui défendent cet endroit ne semblent pas disposés à se servir des canons pour tirer sur le peuple si l'ordre est donné. De plus, tout près de là, au Champ de Mars, les soldats du régiment des gardes françaises, eux non plus, ne sont pas prêts à tirer sur le peuple si une intervention est décidée pour mater l'insurrection. Des fusils et des canons aux Invalides. Voyant les troupes armées qui ne réagissent pas, les émeutiers comprennent que rien ne les arrêtera et pénètrent en masse aux Invalides dans la confusion générale, portés par la fureur et l'envie de se protéger avec des armes. Ils découvrent dans ce bâtiment 2 km de souterrain. Ils s'emparent des fusils et des canons, et comme ils n'ont pas de munitions ni de poudre, ils se dirigent vers la Bastille, où ils sont sûrs d'en trouver. 10 h. De la poudre et des munitions à la Bastille. La Bastille, c'est un château fort qui domine le faubourg Saint-Antoine, quartier où de graves incidents se sont déjà produits le 28 avril 1789, faisant plus de 200 morts et 300 blessés. Il possède 8 tours. Pour y accéder, on doit d'abord entrer dans une première cour, la cour de passage. Après 2 petits ponts-levis, on arrive dans une deuxième cour, la cour du gouvernement. Puis, il faut encore franchir 2 ponts-levis parallèles avant d'accéder à l'intérieur de la Bastille. La prison d'État de la Bastille est un monument que les Parisiens détestent depuis longtemps et qui représente le symbole du pouvoir absolu, puisqu'un grand nombre de Parisiens pensent que cette prison est remplie de prisonniers détenus arbitrairement. Mais ils ne sont pas venus détruire le monument, ils sont juste venus chercher de la poudre et des munitions. Cette Bastille est gardée par 82 vétérans et est gouvernée par le marquis Bernard-René Jordan Delaunay, 49 ans, qui va montrer au grand jour son inaptitude à donner des ordres cohérents et son manque de sang-froid au cours de cette journée mémorable. En plus des vétérans, le gouverneur, constatant l'agitation des Parisiens depuis quelques jours, a demandé le renfort de 33 gardes suisses. 10 h 30. Pendant que les Parisiens armés de fusils sans munitions quittent les Invalides pour rejoindre la Bastille, le comité de l'Hôtel de Ville décide d'envoyer une délégation de 3 hommes à la Bastille pour demander qu'on retire les canons du sommet des tours pour ne pas provoquer des Parisiens surchauffés. Delaunay n'a pas l'intention de donner les munitions et la poudre, mais il accepte sans mal de retirer les canons du haut des tours et propose même à la délégation de partager son repas avec lui. Dehors, la foule s'énerve. C'est beaucoup trop long. Que se passe-t-il à l'intérieur? La délégation a-t-elle été retenue prisonnière? Ou bien leur fait-on du tort? Ou bien même sont-ils en train de pactiser avec l'ennemi? 11 h 30. À l'Hôtel de Ville, on s'inquiète. Une deuxième délégation est envoyée. Au moment où la première délégation sort de la forteresse, couverte d'injures, est retenue par les émeutiers. À nouveau, les délégués parlementent avec le gouverneur. Ils demandent que les canons soient descendus des tours et surtout qu'on ne fasse pas la guerre à la nation. Ils proposent aussi une garde bourgeoise pour aider à défendre le fort. Les Parisiens à l'extérieur, qui n'étaient venus que pour prendre les munitions et la poudre, accumulent la haine à force d'attendre. et beaucoup sont prêts à s'emparer de la Bastille. 13 heures. La deuxième délégation a rejoint l'hôtel de ville. Le comité permanent décide de rédiger une proclamation assurant au peuple que le gouverneur ne fera aucun usage de ses armes. Mais soudain, un coup de canon retentit. Il est 13h30. Que s'est-il passé? Une méprise qui aggrave la situation. La foule est tellement dense devant la Bastille que beaucoup ne savent rien des pourparlers entre l'hôtel de ville et le gouverneur Delaunay. Excédés d'attendre, certains sont montés sur le toit d'une maison séparant les deux cours d'accès à la forteresse et sont parvenus à abattre le premier pont-levis. Les émeutiers s'engagent alors dans la cour du gouvernement et arrivent au pied de la Bastille. L'arrière de la foule, n'ayant pas vu que ce sont deux des leurs qui ouvrent le passage, est persuadé que le gouverneur veut faire pénétrer les assiégeants dans la dernière cour avant la prison pour les mitrailler. Vraisemblablement, c'est en haut des tours que l'ordre a été donné de tirer sur la foule. Les tirs du haut de la Bastille sont peu nourris. Les Invalides et les gardes suisses font surtout des tirs de dissuasion et agitent leurs chapeaux pour faire comprendre aux émeutiers de reculer. En bas, on évacue les premiers morts et blessés.